Nous allons étudier aujourd'hui un passage qui parle d'une rencontre entre Jésus et un jeune homme. Et donc, cette rencontre, nous la lirons dans l'évangile de Marc au chapitre 10, à partir du verset 17, et nous irons un peu au-delà de cette rencontre jusqu'au verset 32. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à Jésus devant lui, Maître, oui, je découvre là qu'il n'a pas dit lui, il ne s'est pas écrit lui dit, mais voilà, deux points. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne tueras pas, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras de tort à personne. Honore ton père et ta mère. Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples, qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Mais reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés. Ils se dirent les uns aux autres, « Qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem, et Jésus allait devant eux. Les disciples étaient troublés. Et le suivait avec crainte. Nous arrêtons ici notre lecture. Et si vous le voulez bien, nous allons resituer le contexte de ce passage. Et il nous est dit que, un peu plus tôt que dans ce chapitre, ce dixième chapitre de l'évangile de Marc, que Jésus se trouve en Judée. Et après avoir parcouru la Galilée en tous sens, donc tout au nord de d'Israël, il l'a définitivement quitté pour se rendre à Jérusalem. Et en fait, le jour où il sera crucifié est très proche, il n'est plus très loin. C'est au cours de ce voyage vers Jérusalem qu'un homme vient l'interpeller, cet homme qui, nous est-il dit, vient carrément, devant tout le monde, se jeter à ses genoux. Et d'ailleurs, notre passage commence par le départ de Jésus à Jérusalem. Nous le lisons au verset 17, comme Jésus se mettait en chemin. Et donc, c'est ici le départ de ce voyage vers Jérusalem. Et notre passage se termine aussi, on est toujours en chemin, à la fin du passage, on est toujours en chemin vers Jérusalem. Et cette rencontre avec ce personnage, ce jeune homme, semble donc se faire au tout début de cette marche. Que sait-on de lui? Ici, nous déduisons de ses propos qu'il s'agit d'un juif, et même d'un juif pieux et respectueux des traditions de ses ancêtres, et des commandements en tout cas. Nous lisons qu'il était riche, très riche même. Et en rassemblant tout ce qui est dit de lui dans les autres évangiles qui en parlent, l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, on apprend qu'il était jeune, Et Luc précise qu'il s'agissait d'un chef. Quelle sorte de chef, on ne sait pas trop, un notable peut-être, et qui sait, peut-être un responsable éventuellement de la synagogue de son secteur. Donc résumons, un homme jeune, encore jeune en tout cas, de bonne famille, bien élevé, respectueux de la tradition de ses ancêtres, influent et surtout très riche. Bref, il a tout du gendre idéal. Et pourtant, on perçoit vite qu'il manque quelque chose à cet homme. Il manque quelque chose pour qu'il vienne ainsi se jeter aux pieds de Jésus. Comme ça, devant tout le monde. Alors que le moment est plutôt à se mettre en marche pour Jérusalem. Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ? Le mot « hériter » n'est pas choisi au hasard, et encore moins, bien sûr, dans la bouche de cet homme qui est probablement riche de par sa famille. Que je sache, il n'est pas l'inventeur de Facebook, hein, pour avoir fait fortune dès l'âge de 25 ans. Et je pense qu'à cette époque, quand on était à la fois jeune et riche, c'est qu'on le tenait de sa famille. S'enrichir à partir de rien était l'œuvre de toute une vie. Et puis dans le texte grec, hein, c'est bien le mot « hériter » qui est employé. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ? C'est ainsi que lui-même le dit. Et ce jeune homme sent bien que malgré tout, malgré son capital financier, social, éducatif, religieux, et malgré toute son influence dans la société, il lui manque quelque chose. Et il sait même ce qui lui manque. La vie éternelle. Rien que ça. Combien de gens se soucient de la vie éternelle ? Est-ce que ce serait l'apanage de ceux qui ont tout obtenu dans cette vie et qui, arrivés à ce point, sont face à ce manque ? Est-ce que s'interroger sur la vie éternelle serait le luxe du commun des mortels ? Ce ne serait pas le luxe du commun des mortels, un luxe pour le commun des mortels, trop occupé à combler ses besoins, beaucoup plus terre à terre ? Très sincèrement, j'encourage le fondateur de Facebook à s'interroger sur la vie éternelle et à chercher au pied de Jésus des réponses à ses questions. Mais je ne me fais pas d'illusions, il y a fort peu de chances que mon interpellation lui parvienne. Alors c'est entre nous que modestement je pose à Jésus la question « Bon maître, que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle ?» Et la première réponse que Jésus nous adresse est un peu déroutante, à vrai dire. On dirait même qu'il botte en touche. Tu dis que je suis bon, mais Dieu seul est bon. Moi, ça m'agace quand on me fait ça. Quand on me reprend sur un mot mal choisi et qu'on me répond pas sur le fond de la question que j'ai posée. Mais Jésus sait bien à qui il s'adresse. Et on voit d'ailleurs d'autres passages où Jésus frémit intérieurement à l'idée de certaines idées, à l'évocation de certaines idées, mais où il se tait parce que, telles qu'elles sont exprimées, elles ne correspondent pas tout à fait à la réalité, mais soit il se tait parce que soit les circonstances ne s'y prêtent pas à ce moment-là, soit parce que l'interlocuteur ou l'auditoire n'est pas prêt à l'entendre. Mais là, nous avons affaire à quelqu'un d'instruit, et qui plus est d'instruit dans les questions religieuses. Et lui est capable de s'interroger sur la portée de cette expression « bon maître » qu'il emploie, il faut dire, un peu à la légère. Et peut-être pas seulement envers Jésus d'ailleurs, pas forcément. On peut penser que c'est ainsi qu'il s'adresse au rabbin de sa synagogue. À moins qu'on y voit une petite parcelle de flatterie, je pense plutôt qu'il s'agit très probablement d'une marque de respect. Quoi qu'il en soit, Jésus a décidé, pour lui, de rebondir sur cette expression « bon maître ». Revois ton échelle de valeur, mon ami. Réalises-tu la portée des mots que tu emploies ? Réalises-tu que Dieu seul est bon ? Bon dans la pleine acceptation du mot. Et associé à maître, ça signifie juste, saint, parfait. Et c'est vrai qu'il y a une certaine ironie quand même quand on regarde la situation où un homme s'adresse à un autre homme, où un homme adresse à un autre homme un qualificatif réservé à Dieu. Mais où précisément il ne croit pas s'il vient dire. Il a en face de lui l'incarnation du Fils de Dieu. Cette première remarque étant faite, Jésus en vient au fond de la question. Que devons-nous faire pour hériter la vie éternelle? Et là encore, malheureusement, la réponse de Jésus, enfin malheureusement, ça va le faire beaucoup réfléchir et ça va nous faire aussi beaucoup réfléchir. La réponse de Jésus n'est pas directe et plutôt que nous donner un plan d'action, premièrement, deuxièmement, petit a, etc., Jésus cite les commandements. Écoutez, vous les connaissez. Vous ne commettrez pas d'adultère, vous ne tuerez pas, vous ne déroberez pas, vous ne donnerez pas de faux témoignages, vous ne ferez de tort à personne, honorez vos parents. Ça répond à votre question ? Ben non. En fait, c'est à cela que je m'applique tous les jours. Ça ne m'empêche pas, Jésus, de me trouver ce matin à tes pieds en proie à l'angoisse de ne pas savoir, de ne pas être sûr d'hériter la vie éternelle. Et nous voilà au cœur du sujet. Je connais les commandements, je les observe scrupuleusement, et pourtant, je ne suis pas en paix quant à savoir si j'ai la vie éternelle. Je pense que vous voyez le cheminement de pensée par lequel Jésus conduit ce jeune homme instruit, en particulier instruit des choses de Dieu, vers les bonnes questions qui vont progressivement amener les bonnes réponses. À aucun moment, regardez bien, il ne lui dit « ne commets pas d'adultère, ne dérobe pas, ne fais de tort à personne, bref, observe les commandements et ainsi tu hériteras de la vie éternelle ». Jamais. À aucun moment, il ne lui laisse entendre que l'observation des commandements lui fera hériter la vie éternelle. Il lui dit simplement, tu connais les commandements. Et il en énumère quelques-uns. Jésus répond là à cet homme dans le sens de son système de valeurs, de cet homme. Il répond selon son propre système de valeurs. Et poussé au bout de sa logique, cet homme va dire une chose qu'il n'aurait probablement pas dite de prime abord. Et il va livrer là le fond de sa pensée intime. Mais tout cela, je le fais déjà, et depuis mon plus jeune âge. Vraiment. Bien. Si j'ai choisi d'étudier cette rencontre dans l'évangile de Marc et non de Matthieu ou de Luc, c'est à cause du verset 21. Verset 21 où nous lisons « Jésus, l'ayant regardé, l'aima ». L'évangile de Marc, bien qu'étant le plus court de tous les évangiles, recèle de nombreux détails qui ne se trouvent pas dans les autres évangiles. Et il est aussi celui où sont le plus retranscrits les sentiments intérieurs de Jésus. Et cette mention de l'amour de Jésus pour cet homme est là pour nous faire prendre conscience que malgré notre égarement, malgré les illusions que nous entretenons sur notre capacité à être approuvé de Dieu en vue d'obtenir la vie éternelle, Jésus continue de porter sur nous un regard d'amour. C'est le regard du Dieu patient qui sait ce qu'il en est vraiment, et dont, peut-être, nous n'avons pas encore pris conscience. Tu observes les commandements depuis ta jeunesse, très bien, et alors ? N'as-tu pas remarqué qu'ils t'ont mis plus souvent en face de tes échecs que tes réussites ? Et quand bien même tu réussissais, n'as-tu jamais entendu au fond de toi cette voix douceâtre qui susurrait que, peut-être, au fond, tu n'avais pas besoin de Dieu ? Et quant aux fois où tu échouais, tes pensées ne t'ont-elles jamais accusé au point que tu te dises que Dieu ne voudrait pas de toi, ne réalises-tu pas que les commandements par lesquels tu crois t'approcher de la vie éternelle sont en fait là pour faire ressortir la sainteté, la bonté dans le sens de perfection, de ce qui est bon de Dieu, et de mettre en contraste avec cela tes propres manquements. Et ceci afin que tu ne comptes plus sur toi-même pour hériter la vie éternelle, mais sur moi, Jésus, qui ai porté sur toi ce regard d'amour, afin de te sauver de tes péchés. Péchés, parmi lesquels se trouve l'orgueil de croire que tu parviendras par tes propres efforts à la vie éternelle. J'ai observé mes commandements depuis ma jeunesse, aucun ne m'a résisté. Je leur ai tous obéi, les doigts dans le nez. Il y a un peu de ça ici, hein. Les commandements faciles. J'y pense même plus. C'est une seconde nature chez moi. Qu'est-ce que je peux faire ? Non, mais voilà, qu'est-ce que je peux faire de vraiment difficile ? Qui compte vraiment pour la vie éternelle ? Notre homme est une personne déchirée. Il sent que quelque chose lui échappe, qu'il passe à côté de quelque chose. Nous parlions il y a 2 semaines de la cible, hein, à la côté de laquelle nous pouvions passer. Il sent qu'il est en train de rater la cible. Et cependant, il ne parvient pas à entrevoir la cible ailleurs que dans ses propres valeurs. Valeurs qui pourtant l'ont amené là, à ce constat d'échec. Constat qu'il lui manque encore quelque chose. Oui, dit Jésus, il te manque encore quelque chose. Puisque tu vois ta vie comme un catalogue et que tu sembles bien décidé à le rendre complet, moi, Jésus, je vais te dire la page, la seule page qui manque encore. Tu es bienvenu là pour ça, n'est-ce pas ? Je me souviens d'une dame invitée à une rencontre d'études bibliques et dont la réponse écrite par mail avait été ceci. « Merci, mais je ne suis pas encore prête. Je ressens en moi un mélange d'attirance et de crainte, un peu comme une porte entrouverte. » Et ce jeune homme en est là. Au fond de lui, quelque chose lui dit qu'il y a des richesses insoupçonnées de l'autre côté de la porte, et peut-être même cette vie éternelle après laquelle il court et qui lui file entre les doigts. Et nous arrivons vraiment au point charnière de notre entretien, car Jésus, maintenant, aborde le point délicat. En tout cas, le point délicat pour ce jeune homme. Il va mettre le doigt sur ce qui est vraiment pour lui le point sensible. Et ce point, c'est qu'il aime beaucoup, mais vraiment beaucoup, les biens parmi lesquels il vit et qui apparemment sont importants. On ne sait pas en détail ce que c'est, on peut l'imaginer, mais peu importe, on comprend bien que là est le point charnière autour duquel son avenir va se jouer. Franchement, je vous le donne comme mon interprétation, moi je crois que ce jeune homme ne va entendre rien d'autre que ce qu'il savait déjà. Un homme de cette intelligence, de cette éducation, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il n'avait pas déjà une conscience plus ou moins claire de là où le bât blessait dans sa vie et dans ses valeurs. Soit il est venu se faire rassurer par Jésus, se faire donner bonne conscience, soit il est venu pour qu'on lui dise enfin clairement ce qu'il craignait d'entendre, « Tu es trop attaché à tes richesses ». Enfin, ça c'est mon interprétation. Et si elle est juste, en tout cas, c'est l'attitude qu'on appelle « prêcher le faux pour connaître le vrai ». Mais la seule chose qu'il ne maîtrise pas, c'est comment Jésus va lui dire ça. Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Nos traductions, alors vous pouvez peut-être avoir... Ça peut être présenté de choses de manière un tout petit peu différente suivant la traduction dans laquelle vous le lisez. Mais généralement, toutes nos traductions font assez mal ressortir le texte original. Elle semble coupée en deux. Hein. Vous avez un point virgule, après tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. La Bible du Semeur carrément met un point et coupe et fait de cette parole deux phrases. Évidemment, l'original, lui, ne va pas tout à fait en ce sens. Voilà tel que l'original se présenterait, une fois traduit littéralement. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Viens et suis-moi. C'est pas très digeste hein, à lire comme ça, et je pense que c'est pour ça que les traducteurs agrémentent leur texte de points, de virgules, de points-virgules. Mais quand on y réfléchit bien, à la réflexion, on n'est peut-être pas très loin d'une conversation parlée, même en français de nos jours. Hein, ça ressemblerait, à mon avis, assez à ça, notre façon quotidienne de nous exprimer à l'oral. Et je disais que nous arrivions à un point charnière de cet entretien, et vraiment, le point charnière, il se trouve incontestablement dans cette phrase. Mais peut-être que nous ne le plaçons pas tous au même endroit, au sein de cette phrase, au sein de cette parole. Et notre homme, lui, le place là. Vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Pas seulement vends tout ce que tu as, qui serait sans doute un déchirement pour lui, mais enfin bon, si c'est que de vendre, on garde quand même la valeur financière. C'est pas non plus donne aux pauvres, parce que en tant que juif responsable, il doit donner, il doit pratiquer la libéralité. Non, ce qui vraiment coince, c'est le tout. Débarrasse-toi de tes richesses, toutes tes richesses. Et si l'on doit affiner vraiment dans cette phrase en orange que vous avez ici le point charnière, moi je pense qu'il se situe là. À tout. Tout. Pour les fans des aventures d'Astérix, c'est le mot qui ronge César. César, toute la Gaule est occupée. Toute, non. Un petit village résiste encore et toujours à l'envahisseur, etc. Ce ne sont pas ces quelques dizaines de braillards, de rigolards qui troublent César. Non, ce qui manque à César, c'est ce tout. Pour que tout soit tout, pour que personne ne dise « oui, mais là-haut, en armorique, tout ». Est-ce cela que Dieu me demande en échange de la vie éternelle ? Et manifestement, notre homme, qui semble comprendre comme ça, n'est pas le seul à considérer les choses de cette manière, si on en juge aux réactions des disciples eux-mêmes. Atterrés. Mais alors, qui peut être sauvé ? Pierre, dans son franc-parler brut de décoffrage, comme il sait bien le faire, dit tout haut ce que les autres pensent tout bas. Attends, nous on a tout quitté. Et là, tu es en train de nous dire que ça ne serait pas suffisant ? À la toute fin du passage que nous avons lu jusqu'au verset 32, alors que même nous lisons qu'ils ont repris la route, donc on ne sait pas depuis combien de temps, ils sont encore troublés et suivent Jésus avec crainte. Ça pose question tout de même. À partir de quand peut-on se considérer riche et en dehors du royaume de Dieu, comme semble évoquer Jésus ? À l'inverse, à partir de quand peut-on se considérer débarrassé de ses richesses ? La maison ? La voiture ? Le smartphone ? Cette chemise ? À partir de quand c'est assez petit pour passer à travers le chat de l'aiguille ? Avouez qu'il y a quand même de quoi être troublé. Mais ce que les disciples de Jésus vont apprendre et comprendre au fil du temps, et surtout dans ces derniers jours qu'ils vont passer avec Jésus, où ils vont être témoins de ce que lui va tout donner pour eux, pour nous, jusqu'à sa propre vie, c'est que le point charnière se trouve ailleurs. Le point charnière, c'est « viens et suis-moi ». Mais peut-être est-ce encore trop large. Vous le savez, une charnière, j'en ai apporté une là, est constituée de deux gonds. De deux gonds. L'un des gonds est arrimé à la partie fixe, le chambranle, notre vie terrestre, et l'autre à la partie mobile, la porte donnant sur la vie éternelle. Et il faut une troisième pièce, l'axe, pour assembler et faire pivot entre ces deux gonds. Et je crois que l'axe de notre charnière se trouve ici. Moi. Moi, Jésus. Moi, le bon maître, puisque c'est ainsi que tu as voulu me qualifier. Titre que seul Dieu peut revendiquer dans sa plénitude. Moi qui peux faire le lien et l'articulation entre ta vie d'aujourd'hui et celle bien plus glorieuse à laquelle je t'appelle. À moi, à Dieu, tout est possible, dit Jésus. Il le dit à ses disciples encore dans la crainte après cet entretien. Si vous regardez à moi, il vous sera possible de regarder vos valeurs et vos richesses comme insignifiantes au regard de la vie nouvelle que je vous offre et des richesses infinies qui vous attendent dans mon royaume. Avec moi, à partir de moi, vous passez de l'autre côté de la charnière, sur le gond mobile, sur la porte ouverte. L'autre gond demeure tant que vous demeurez dans ce monde, mais la vie est de l'autre côté. À ce gond-là sont attachées vos valeurs anciennes. Ne les regardez pas de trop près. Ne le regrettez pas trop, car elles ne franchiront pas la porte. Ou en tout cas, si jamais elles vous importent encore, souvenez-vous que celles qui vous attendent dans le ciel sont bien plus grandes, bien plus nombreuses, en valeur inestimable. Oui, nous l'avons évoqué à plusieurs fois ce matin, dans le ciel, Jésus dit « dans le ciel ». Et à l'instar des disciples, beaucoup ont pensé que Jésus posait ici la condition pour l'entrée dans le ciel. Ce jeune homme même l'a compris ainsi, et le voilà qui s'éloigne, profondément triste, en pensant que là était le prix à payer, et il retourne à son système de valeurs, dont pourtant il semblait toucher du doigt les limites. Les disciples mêmes, qui suivaient Jésus depuis 3 ans pour certains, qui connaissaient son enseignement, ont été troublés. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, et viens, suis-moi. Mais regardons attentivement le texte. À quel moment Jésus dit-il, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu hériteras la vie éternelle? Pas ça que nous lisons. Vends tout ce que tu as, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Mais ça, c'est si tu vas au ciel. Parce que c'était ça sa question. Souviens-toi, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Eh bien, ma réponse, la voilà. Viens, suis-moi. Passe de l'autre côté de la charnière. Ce que tu perdras à tes yeux n'a de valeur qu'au regard de ton ancien système de valeurs. N'y attache pas trop d'importance. Et de toute façon, tu trouveras dans le ciel un trésor sans commune mesure. Et pas seulement dans le ciel d'ailleurs. Pierre, toi Pierre, peut-être, oui, tu as quitté ta maison. Mais je te dis que tu vas trouver en cette vie déjà des maisons en grand nombre, dans lesquels une multitude de frères et de sœurs t'accueilleront. Ces frères et ces sœurs qui auront tourné le dos à une conception trop possessive de leur maison pour l'ouvrir à l'hospitalité, à l'accueil, au partage du pain et de la foi. Ton champ d'action s'étendra bien au-delà de cette terre que tu as quittée sur le bord du lac de Galilée. Jean, je te donnerai une nouvelle mère. Nombreux seront ceux qui croiront en moi par ton témoignage d'amour et que tu appelleras mes petits-enfants. Pierre, Jacques, Jean et d'autres encore, vous serez emprisonnés, exilés pour le reste de vos jours ou carrément mis à mort à cause de moi. Ça fait aussi partie du contrat. Mais même de tout cela, votre travail à mon service, votre héritage spirituel sur cette terre et même votre propre, sacrifice, oui, de tout cela, oubliez toute idée de vous en prévaloir pour la vie éternelle. Le seul fait même d'y penser vous en éloignera à l'image de ce jeune homme que vous voyez partir là-bas. À Dieu et auprès de Dieu, tout est possible. Même de réduire à néant l'énormité de nos fautes pour nous faire passer à travers l'infinie finesse du filtre de la perfection de Dieu, faire passer le chameau par le chat de l'aiguille. Est-ce que, après ces mots, les disciples ont mieux saisi le sens des paroles de Jésus ? Pas sûr, puisque nous les voyons encore troublés, encore dans la crainte, alors que le chemin vers Jérusalem se poursuit. Mais néanmoins, et contrairement au jeune homme, ils continuent de suivre Jésus. Suivre Jésus comme il le leur avait demandé 3 ans plus tôt. Suivez-moi. Un seul s'en écartera définitivement et prendra même part à la mort de Jésus, et précisément par attachement à l'argent. Au final, il n'en concevra que du remords, incapable même de demander pardon pour ce crime, et décidera d'en finir avec la vie. Mais ceux qui resteront verront le Christ ressuscité. Ils recueilleront ses dernières recommandations de faire des disciples sur toute la terre et seront témoins de son ascension dans le ciel. C'est ce week-end, c'était ce jeudi que nous célébrions l'ascension du Christ. Ce ciel dont il leur a tant parlé. Quelques jours plus tard, à la Pentecôte, ils verront venir sur eux le Consolateur. Ce Consolateur que Jésus a promis de leur envoyer après son départ, le Saint-Esprit, par lequel ils seront fortifiés et équipés pour accomplir leur mission. Et ensuite, ils se disperseront sur toute la terre d'Israël, et puis tout autour dans les contrées romaines, helléniques, et puis au-delà des mers, non pour faire commerce des promesses de la vie éternelle, mais pour que le commerce de ce monde fasse place à la vie éternelle pour des millions de personnes. De cela, nous sommes tous héritiers. Le jeune homme riche cherchait un héritage. Il avait un côté de la charnière, sa vie terrestre, qu'il tenait bien en main. Il aspirait ardemment à passer de l'autre côté de la charnière, la vie éternelle. Il qualifiait Jésus de bon maître. Et cependant, il ne l'a pas suivi. À quoi sert-il de reconnaître un maître ? À quoi sert-il même de le qualifier de bon, hein, au sens plein de ce que ça signifie si on ne le suit pas ? C'est vouloir utiliser la charnière sans son axe. À notre tour, l'héritage s'offre à nous en 3 mots. Viens, suis-moi. Je vous propose de vous lever pour chanter un chant dont pas mal de paroles font écho à tout ce que nous venons d'étudier.